l'univers et ce qui a pu se passer avant le Big Bang, tel qu'on peut l'imaginer. Pour discuter de ce sujet fort intéressant, nous avons parmi nous Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au service d'astrophysique du CEA de Saclay et qui est aussi actuellement président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes, à savoir les Utopiales. Depuis plusieurs années, il tient la chronique scientifique Scientifiction de la revue SF Bifrost. Il a publié de nombreux livres de vulgarisation scientifique, s'intéressant notamment au rapport entre science et science-fiction. Certains de ses ouvrages permettent d'aborder les thèmes de la science-fiction grâce aux outils de la physique. À côté de lui, nous avons Étienne Klein, qui est physicien au CEA et qui dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Ses études ont notamment porté sur la notion du temps en physique. Il a aussi participé à la conception du grand collisionneur de particules, le LHC. Au cours de sa carrière, plusieurs prix lui ont été décernés. Il est aussi auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages au titre évocateur. Et à côté de moi, Claude Ecken, qui écrit des romans et des nouvelles de science-fiction et policiers. Après avoir écrit de nombreuses nouvelles, il a signé son premier roman, L'Abbé X, en 1984. Ensuite, il a publié La mémoire totale, qui fera de lui le pionnier du cyberpunk français. Ses romans assez noirs démontrent les obscurités de l'âme humaine. Deux prix Ronny-Aîné lui ont été remis, ainsi que le Grand Prix de l'Imaginaire pour son recueil Le Monde tout droit réservé en 2006. Il publie régulièrement des nouvelles et des critiques pour les magazines Bifrost et Galaxy. Et c'est lui qui a écrit les textes de l'exposition Amazing Science, que vous pouvez voir derrière nous. Vous. Alors, bonjour messieurs. Alors, depuis le Big Bang jusqu'au Big Crunch, le destin de l'univers a toujours enflammé l'imagination des auteurs et a occupé les cosmologistes. Mais même si notre univers actuel pose de nombreuses énigmes, un point interroge particulièrement les scientifiques. Quelle est l'origine de notre univers ? Le Big Bang semble globalement accepté comme point temporel générateur de ce que nous voyons autour de nous. Ceci posé, pourquoi est-il survenu ? Que s'est-il passé avant le Big Bang ? L'imaginaire des scientifiques tente de nous projeter jusque-là. Cet imaginaire est-il plus débridé finalement que celui des auteurs ? Qu'en est-il du Big Bang, et particulièrement de l'avant-Big Bang dans la science-fiction ? En quoi les points de vue des scientifiques et de la science-fiction peuvent-ils se rejoindre ? Peuvent-ils s'appuyer l'un sur l'autre pour faire avancer notre connaissance de l'univers ? C'est des questions sur lesquelles nous allons essayer de travailler. Alors, Monsieur Klein, Non, c'est lui d'abord. Alors, ça va être plutôt vous.
Toi, alors.
Ouais, tiens, bon.
Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur la cosmologie et sur la façon dont les cosmologistes ont reconstruit ce que certains appellent le grand récit de l'univers, c'est-à-dire l'histoire des époques qui nous ont précédés. Alors, je ne parle pas des époques, évidemment, terrestres, celles sont trop proches, même des époques terrestres il y a longtemps. Je parle d'époques cosmologiques, des âges très anciens qui se chiffrent en milliards d'années avant notre moment présent. Ben, ils ont fait de proche en proche, en remontant dans le temps, grâce à une façon assez pratique finalement, mais un peu obligatoire aussi de remonter dans le temps en astrophysique, qui est de regarder des objets lointains. Comme la vitesse de la lumière est finie, elle est très rapide, elle fait 300 000 km en une seconde. Plus on observe un objet qui est loin dans l'espace, plus il est loin dans le temps. Autrement dit, à cette échelle de cette pièce, les gens que je vois devant moi, je ne les vois pas au même temps que les gens qui sont loin derrière moi. Évidemment, parce que la lumière fait 30 cm en chaque milliardième de seconde. S'il y a en gros 10 mètres d'écart, eh bien, il va y avoir quelque chose comme une trentaine de nanosecondes de différence de temps entre le temps d'arrivée du monsieur là-bas barbu qui me sourit à ce monsieur jaune ici qui sourit aussi. Et donc voilà, je ne vous vois pas au même temps. L'écart est modeste, mais je ne vous vois pas au même temps. Alors si maintenant on met ça à des échelles considérables, que l'on chiffre en astrophysique en années-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an, et même quand on veut aller vraiment loin en millions et même milliards d'années-lumière, on observe des objets dont la lumière a mis un temps considérable pour nous parvenir, qui se chiffrent donc en millions, voire en milliards d'années. Par comparaison, encore une fois, la lumière qui nous vient de la Lune, qui est diffusée par la Lune, met une seconde pour nous parvenir, et la lumière qui nous vient du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir. Donc on parle d'objets qui sont des distances vraiment faramineuses. Donc en observant ces objets lointains, et donc finalement en observant des objets différents, mais aussi à des âges différents, ils sont différents parce que ce n'est pas le même, ce n'est pas la même personne. Je vois cette personne devant moi et la personne derrière moi, donc je disais avec un écart de temps de 50 ou de 30 nanosecondes, de 30 milliardièmes de seconde, Donc c'est deux personnes différentes avec un écart de temps. Et bien là, je vais voir deux galaxies différentes, par exemple. L'une qui m'envoie de la lumière qui a été émise il y a 1 million d'années, et l'autre qui m'envoie de la lumière qui a été émise il y a 100 millions d'années. Et si ces galaxies sont supposées voisines, en tout cas, les personnes que j'avais devant et derrière moi sont deux humains, ils sont pas identiques, mais c'est quand même deux humains, je peux tirer quelques informations de leur similitude supposée et du fait que je les vois à des âges différents parce que je reçois des informations qui ont été émises à des âges, à des moments différents de leur évolution. Et donc cette reconstruction en remontant dans le passé grâce à l'observation de objets de plus en plus lointains a permis d'aboutir au modèle cosmologique actuel. Alors je ne vais pas parler de la monopolité de la parole tout le temps, elle a passé quand même à Étienne et à Claude, mais voilà, donc il faut avoir une idée que c'est ça. On remonte vers un passé de plus en plus lointain. Est-ce que cette remontée dans le temps peut se faire aussi lointain qu'on veut? C'est la même chose qu'on aurait dans une enquête policière où on cherche à... Un crime a été commis aux Utopiales, le cadavre est ici, et on veut savoir ce qui s'est passé. Alors on essaie de remonter dans le temps les actions de la victime, les actions des supposés meurtriers, des supposés acteurs de ce drame, et on essaie de trouver comment ça a arrivé, ça a pu se produire. Et à un moment donné, dans cette remontée dans le temps, on aura des informations parcellaires, d'autant plus qu'on remonte loin, voire pas d'informations du tout. C'est ça le drame de la cosmologie. On a des informations parcellaires, d'autant plus qu'on regarde loin, voire pas d'informations directes au sens de l'observation du tout. Et cette remontée, elle se fait ensuite par l'extrapolation de modèles, par la réflexion, par l'intelligence, par l'intellect, et pas par l'observation directe. Donc, voilà. Après, il y a une autre étape.
Voilà. Alors, c'est justement...
Étienne va nous en parler.
Alors, donc, lorsqu'on imagine, donc lorsqu'on fait un travail intellectuel et qu'on remonte jusqu'à un instant, je sais pas, appelons-le T0, quelque chose comme ça. Donc, il a été appelé Big Bang par Fred Hoyle. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est que ce T0? Qu'est-ce que c'est?
Avant de parler du T0, je voulais juste continuer l'histoire que Roland vient de commencer, c'est-à-dire par l'observation des objets très lointains, on a des informations sur le passé de l'univers, à condition évidemment que ces objets nous envoient de la lumière, sans quoi on ne les voit pas. Donc, en fait, dans l'univers primordial, disons les 400 000 premières années après ce fameux Big Bang, la densité de matière était tellement élevée que la matière était opaque à sa propre lumière, c'est-à-dire la lumière était piégée dans la matière et les signaux éventuels que cette période aurait pu nous envoyer ne nous ont pas été transmis. Et donc si on veut comprendre cette phase, l'observation astronomique par la lumière ne fonctionne plus. Alors comment faire? Eh bien, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce que j'ai dit ce matin, à savoir que on postule que les lois physiques soient invariantes par translation du temps. C'est-à-dire que les lois physiques ont toujours été les mêmes, alors même que l'univers a évolué. L'univers évolue, mais sans faire évoluer ses lois physiques. De sorte que si on crée, par des artifices, par exemple des collisions de particules à haute énergie, les conditions physiques de l'univers primordial, c'est-à-dire très forte densité, très forte température, comme les lois physiques n'ont pas changé, on va voir dans le présent, dans un tout petit volume et pendant un temps très court, les phénomènes physiques qui se sont déroulés il y a 13,7 milliards d'années. Donc ça, c'est une façon de prolonger par l'expérience en laboratoire ce qu'on ne peut plus faire par des observations astronomiques. Mais ça nous amène à des situations dans lesquelles l'énergie moyenne des particules était égale à environ l'énergie d'un moustique en vol. C'est-à-dire, dans les unités qu'on utilise, ça correspond à quelques milliers de milliards d'électronvolts. Simplement, on sait qu'avant, l'énergie des particules était beaucoup plus élevée. C'était l'énergie d'un TGV pour une particule. Et ça, ce sont des conditions physiques qu'on ne sait pas réaliser en expérience. Et donc, pour décrire ces phases-là, il n'y a qu'un outil, c'est les équations, c'est les modèles théoriques, éventuellement extrapolés au-delà des conditions qu'on a pu réaliser pour les tester. Donc on fait des espèces de paris théoriques et on voit ce qu'ils donnent quand on les applique à la description de l'univers primordial. Mais alors, l'instant zéro dont vous avez parlé, et c'est ça qui me... J'ai dit ce matin que ce qui m'intéressait, c'est de savoir ou d'essayer de deviner ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Alors toute cette histoire de Big Bang, de singularité initiale, d'instant zéro, elle s'est mise en place dans les années 50. À une époque où on faisait de la cosmologie en utilisant comme seule théorie physique la théorie d'Einstein de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et quand vous prenez ce formalisme-là, que vous y intégrez les résultats qui viennent de l'observation, le fait que les galaxies s'éloignent d'autant plus rapidement qu'elles sont plus éloignées, etc., ce qu'on appelle la loi de Hubble, vous mettez tout ça dans le dispositif théorique et vous extrapolez vers le passé aussi loin que vous pouvez. Et vous constatez que dans le passé, à mesure qu'on s'éloigne du présent, la densité de l'univers devient plus grande, la température devient plus grande, et les dimensions de l'univers observables deviennent de plus en plus petites. Et quand vous extrapolez au maximum, vous tombez sur une situation qu'on appelle une singularité, qui correspond à un univers de taille nulle, donc ponctuel, de densité infinie et de température infinie. Et à cette singularité initiale, on a associé l'instant zéro, censé être le marqueur de l'origine de l'univers, qui est décrite en l'occurrence comme une explosion originelle qui aurait créé tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et évidemment, cette façon de voir les choses qui, je le répète et j'insiste, date des années 50, a engendré tout un questionnement métaphysique, puisque nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, et donc est apparue là une zone de concurrence ou même de conflit entre la science et la religion. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Est-ce qu'on peut décrire cette transition? Et Dieu dans tout ça? Et ce questionnement-là, il est intéressant. Il ne s'agit pas de le laisser de côté ou d'y renoncer. Il s'agit simplement de remarquer qu'en 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses en cosmologie et que ce questionnement que je viens de rappeler et de résumer, en fait, il était prématuré. Autrement dit, c'est un questionnement qu'aucun résultat de cosmologie contemporaine n'oblige à poser aujourd'hui. Pour une raison très simple à comprendre, c'est que quand vous remontez dans le passé, je vous ai dit que l'énergie des particules est de plus en plus grande. Elles subissent la gravitation, évidemment, mais aussi d'autres forces fondamentales, comme les interactions nucléaires. Il y en a de deux types, une faible et une forte, et puis les interactions électromagnétiques. Et donc, vous pouvez toujours faire des calculs à partir des équations d'Einstein. Ces calculs seront mathématiquement exacts si vous calculez correctement, mais ils deviendront physiquement faux puisqu'ils ne décriront pas toutes les interactions que subissent les particules. Donc votre description est incomplète. Et le moment en deçà duquel les équations de la relativité générale deviennent insuffisantes et fausses, en fait, fausses, physiquement fausses, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et le mur de Planck, il était là il y a 13,7 milliards d'années. Et en deçà, a priori, on ne sait pas décrire. Ce qui veut dire que l'honnêteté intellectuelle consiste à dire non pas qu'on a identifié l'origine de l'univers, mais que l'âge de l'univers est au moins égal à l'âge, à la durée qui nous sépare du mur de Planck. Et cette durée vaut 13,7 milliards d'années. Pour aller en deçà, c'est-à-dire en amont du mur de Planck, il faut disposer d'une théorie qui décrit en même temps les quatre forces. C'est ce qu'on appelle une théorie unificatrice. Il y a plusieurs candidats possibles, sans qu'on sache lequel est le bon. Il y a par exemple la théorie des supercordes dont on a parlé ce matin, il y en a d'autres, etc. Peu importe. Le point important, le point vraiment important, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous choisissez, théorie des cordes, quelqu'un ce matin a parlé de la gravité quantique à boucle, ou autre chose. Le point commun à toutes ces tentatives, qui pourtant reposent sur des principes complètement différents les uns des autres. Les principes de la théorie quantique à boucle, ce n'est pas du tout ceux de la théorie des cordes. Mais le point commun, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous choisissez, quand vous l'appliquez à la description de l'univers primo-primordial, la singularité initiale disparaît. D'accord ? C'est-à-dire que l'instant zéro passe un seul quart d'heure. Alors, je vous donne un exemple, peut-être que Roland complétera. Mais en théorie des cordes, par exemple, il y a une prédiction qui est que si cette théorie est juste, alors la température maximale dans l'univers ne peut pas dépasser une certaine valeur finie. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace et en tout instant du temps, la température de l'univers ne peut pas avoir excédé une certaine valeur, qui n'est pas infinie puisqu'elle est finie. Et il suffit que je dise cette phrase pour que vous compreniez que la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang auxquels on associait une température infinie change de statut. Et en l'occurrence, il y a plusieurs modèles possibles. Non, il y en a un qui est très discuté au Collège de France, puisqu'un physicien qui s'appelle Veneziano fait un cours sur les modèles de pré-Big Bang. En fait, l'idée, c'est qu'il y avait un univers avant qui était en contraction. Étant en contraction, il s'échauffe jusqu'à ce que sa température atteigne la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes, auquel cas il ne peut pas se contracter davantage. Et donc, il rebondit sur lui-même pour donner l'univers en expansion dans lequel nous sommes. Et vous voyez, dans ce modèle-là, donc je ne sais pas s'il est juste ou pas, peu importe, mais dans ce modèle-là, la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang est une question de physique et non pas une question de métaphysique, puisque le Big Bang n'est plus une singularité, mais une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel. Et on pourrait multiplier les hypothèses concurrentes à celle-là et aboutir à la même conclusion, à savoir que aujourd'hui, tu me diras si je me trompe, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question de l'origine est une question ouverte. Évidemment, quand je parle d'origine de l'univers, je prends le mot origine au sens radical du terme. Et ce que j'appelle l'origine, c'est-à-dire cette transition qui, si elle a eu lieu, a fait passer de l'absence de toute chose à l'apparition d'une première chose. Parce que si vous me dites que l'origine de l'univers, c'est le vide quantique, ou c'est une brane dans un espace-temps à 10 dimensions, ou c'est un trou noir, ou c'est ceci, ou ça, ou cela, je vous poserai la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette chose qui est à l'origine. Et je repars pour un tour. D'accord ? Donc l'origine de l'univers, si elle a eu lieu, c'est essayer, si on veut la décrire, de penser l'absence d'univers. S'attaquer à la question de l'origine de l'univers, c'est s'attaquer à la question de ce que serait une absence d'univers. D'accord ? Et donc l'origine, c'est la transition entre le non-être et l'être. Est-ce que cette transition a eu lieu ou non ? Nous n'en savons rien. Et mon hypothèse, c'est que si ça avait été des Chinois qui avaient découvert la cosmologie einsteinienne, jamais ils n'auraient associé la singularité initiale à l'origine de l'univers, puisque pour eux, il n'y a pas d'origine de l'univers. Il y a toujours eu de l'être, il y a toujours eu quelque chose. Et donc c'est parce qu'en Occident, il y a eu collusion entre un résultat scientifique, qui est celui que j'ai énoncé au début, et un fait de culture, qui est que nous sommes convaincus que l'univers a une origine, qu'il y a eu cet amalgame. Mais cet amalgame, il est déconstruit par la cosmologie contemporaine, et personne n'en prend acte, puisque tout le monde part du principe qu'il est certain que l'univers a une origine. Alors qu'en fait, ça nous a été raconté, mais personne n'en sait rien.
Voilà, donc nous avons eu une explication large, fort intéressante sur le côté un peu scientifique, l'état actuel des sciences sur ce sujet. Maintenant, Claude Eken, il y a des auteurs qui se sont aussi attaqués, eux, alors avec uniquement leur imagination à leur service, et qui sont attaqués à ce sujet et qui ont eu des idées.
C'est sûr que de ce point de vue-là, les auteurs de science-fiction sont de vrais mécréants. On ne connaît rien, effectivement, à la physique. Si on devait peut-être débattre aussi brillamment que Roland ou Étienne, à ce moment-là, je crois qu'on ferait de la physique et on n'écrirait pas d'histoire. Ceci dit, nous sommes des consommateurs de science, surtout lorsqu'elle est brillamment vulgarisée. Et à partir de là, rien ne nous interdit non plus, justement, d'imaginer. Non pas pour donner des réponses, forcément, à moins que ce soit des réponses peut-être d'ordre philosophique, mais pour jouer aussi avec ces questions-là. Et à ce moment-là, il y a quand même des auteurs qui se sont penchés sur la question des origines de l'univers en science-fiction. Le plus souvent, ce sont d'ailleurs des physiciens. Je pense par exemple à Gregory Benford, qui va peut-être raconter l'histoire dans l'autre sens, puisque les enquêteurs que sont les scientifiques essayent d'élucider ce qui s'est passé en remontant dans le temps. L'un des bouquins qui est sorti récemment en poche de Benford et qui date des années 90 s'intitule « La sphère ». et il nous raconte l'histoire dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans un accélérateur de particules, le plus grand de l'époque, c'était à Brookhaven, c'était pas encore le LHC à Genève, on a imaginé qu'on allait collisionner de gros atomes bien lourds, et cette fois-ci, il s'agissait d'uranium. Il y aura une explosion, on va récupérer une petite sphère, et cette sphère, en fait, c'est un univers en miniature qui est en train de grandir. Donc, belle aubaine, au bout d'un certain temps, cette sphère noire cesse d'être opaque, justement, on commence à voir, l'univers devient transparent, et c'est l'occasion donc pour Benford de nous raconter et de faire justement de la vulgarisation scientifique en nous racontant les origines de l'univers jusqu'à maintenant, puisque comme tout se passe en accéléré, sur quelques mois, on peut voir l'univers grandir, supposant qu'il grandit exactement de la même façon que le nôtre, ce qui n'est pas certain ni avéré, mais qui permet peut-être de répondre à quelques-unes des questions que on se pose encore aujourd'hui, à savoir si les galaxies sont apparues les premières, etc., etc. Mais donc la science-fiction peut jouer avec ça, mais c'est juste pour se poser quelques questions d'ordre philosophique ou pour essayer de répondre à cette fascination que l'on a face à ces questions de science et pour essayer de les de transmettre cette fascination au lecteur à travers une histoire.
Alors Roland Louk, vous aussi vous êtes aussi auteur, chroniqueur de revues scientifiques dans la SF. Qu'est-ce que vous pensez de ce que qu'écrivent les auteurs de science-fiction? Effectivement, on a cité Benford, on pourrait citer Baxter aussi.
Ou alors évidemment, ils sont pas très nombreux à avoir écrit sur les origines. Moi, il y a un roman sur lequel j'ai récemment travaillé, si j'ose dire. Plus exactement, j'en ai écrit la postface. C'est Taux Zéro de Poul Anderson. Et dans Taux Zéro, il y a, bon, c'est pas un problème d'origine de l'univers, mais quand même, l'histoire, c'est un roman d'ailleurs qui vient d'être publié en français depuis, il n'avait pas été publié en français depuis 40 ans, aux éditions Le Bélial. Et ce roman, on a dans un vaisseau interstellaire, décrit de manière assez cohérente, disons, scientifiquement assez cohérente, des passagers qui s'embarquent pour aller dans une étoile lointaine, et ce vaisseau peut accélérer évidemment et décélérer, et la façon qu'il a de fonctionner, c'est de ramasser sur sa route son carburant. Il ramasse sur le chemin, dans le milieu interstellaire, les atomes, plutôt les noyaux d'atomes dont il va avoir besoin pour faire fonctionner son moteur. Donc plus il va vite, plus il va vite et plus il va vite. Plus il va vite et plus il a de matière à manger pour aller vite. Alors il y a un problème qui se produit évidemment, et la façon que le vaisseau a de décélérer ne fonctionne plus. Le vaisseau ne peut que accélérer. Et l'accélération se produit sans cesse et sans fin. Et du coup, on passe par toutes les phases dans les passagers qui disent « mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» Ils se rendent compte notamment que leur, comme on dit en science-fiction, leur déficit temporel, le fait que le temps qui s'écoule à l'intérieur du vaisseau n'est pas le même que le temps qui s'écoule pour un observateur resté sur Terre, et la différence, ce rapport de durée qu'on appelle le facteur de Lorentz, qu'on appelle tau, la durée propre, qui est la notation pour la durée propre en relativité restreinte, donc le temps propre, le temps des voyageurs, va tendre vers zéro pendant que le temps des terrestres, ceux qui sont restés sur Terre, va tendre vers l'infini. Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et à la fin de l'histoire, voilà, j'en arrive tout ça pour vous dire qu'à la fin de l'histoire, en fait, ils vont arriver vers ce qu'à l'époque était une hypothèse scientifique encore acceptable, qui est, ils vont vivre en un temps humain, en un temps qui est plus petit que la durée de vie humaine, ils vont vivre les derniers instants de l'univers. Le temps de l'univers, lui, il s'est passé beaucoup plus rapidement. Eux, ils n'ont vécu que quelques années, quand l'univers aura vécu quelques milliards et même dizaines de milliards d'années. Et ils se retournent dans une situation où ils vont observer, voir ce qu'on appelait à l'époque le Big Crunch, qui était l'une des possibilités d'évolution de l'univers. L'univers actuel est en expansion, et la question était de savoir, est-ce que cette expansion durera indéfiniment, ou est-ce qu'elle s'arrêtera et éventuellement s'inversera. Et dans les modèles où elle s'inverse, ça aboutissait à une contraction, une extension maximum de l'univers observable, puis une recontraction qui aboutissait à ce Big Crunch. Et donc là, il n'y a pas un problème d'origine qui est abordé, mais un problème de fin d'un univers en recontraction. Il passe à travers ce Big Crunch et l'univers rebondit, un peu à la mode des univers dont parlait Étienne Klein il y a quelques instants, et il passe à travers finalement ce rebond, il se retrouve dans un nouvel univers en expansion, et là tout va mieux pour eux, ils ont un espoir de pouvoir éventuellement s'arrêter et trouver une nouvelle planète. Sauf qu'ils ont épuisé un univers pour ça, donc ça, c'est pas facile, mais voilà. Donc ce problème-là de passer à travers finalement une singularité, à travers un moment singulier de l'histoire de leur univers, qui était une histoire encore considérée comme acceptable à l'époque, parce que cette possibilité de Big Crunch se produit si la densité de matière et d'énergie dans l'univers est plus petite qu'une certaine valeur. Maintenant, il se trouve que les mesures actuelles semblent montrer que la densité de matière et d'énergie a exactement la bonne valeur pour qu'il n'y ait pas de Big Crunch et qu'il y ait une expansion finalement indéfinie, et mieux qu'indéfinie, une expansion accélérée. Ça, c'est un résultat qui date de 1998 et qui a valu le prix Nobel l'année dernière à des astrophysiciens, aux équipes qui ont mis ça en évidence, l'expansion, l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc voilà, encore un roman qui traite de ce sujet d'une autre façon, mais parce que finalement, le début et la fin, enfin, c'est toujours des problèmes un peu qui nous questionnent, nous autres humains. À un moment donné, vous n'êtes pas là, puis vous êtes là, puis vous n'êtes plus là. Hein. Et il y a un intervalle de temps où vous êtes là, et à quoi vous l'occupez? Bah, alors écoutez des tables rondes passionnantes aux Utopias, à manger des bananes parce que c'est bon pour la santé, à regarder des films de science-fiction, à lire, voilà, vous l'occupez, à faire plein de choses. Il y a toujours cette question de avant moi, j'étais pas là, et après je ne serai plus là. Et donc ces problèmes, disons, de début et de fin, que la cosmologie traite d'une certaine façon, mais qu'aussi des disciplines comme l'anthropologie ou l'archéologie traitent, le début de l'humanité, le début de la Terre ou la géologie, et la fin de la Terre, c'est la fin du monde dans un mois que vous n'êtes pas sans le savoir. Donc voilà, ces problèmes de début et de fin sont des problèmes toujours très excitants. Donc la science-fiction, elle les adresse aussi, je pense, elle les traite aussi. La science les traite aussi, mais évidemment. Origine, ça a un sens très particulier quand même, qui nécessite d'être interrogé en détail, surtout quand il s'agit de l'univers, et fin, pareil, qui nécessite d'être interrogé en détail. On pourrait parler de la fin de l'univers, enfin de la fin de l'univers tel que nous le connaissons, plutôt que de la fin de l'univers. Et Claude a une remarque.
Oui, comme tu disais, la question des origines, c'est qu'il y a de multiples origines, hein, et même les origines de la vie. Il me semble, je ne sais pas si Étienne Klein en a parlé ce matin, si je l'ai entendu ce matin, ou si je l'ai lu dans un de ses ouvrages, à savoir que si au tout début de l'univers, il était déjà prévu qu'il y aurait des quarks, que ceux-ci seraient enfermés dans des particules, et puis que peut-être tout cela s'organiserait un jour et donnerait de la vie. Ce que j'adore, par exemple, dans des romans de science-fiction, c'est Stephen Baxter qui essaye de mettre de la vie partout et qui a réussi à mettre de la vie dès les origines, quand l'univers était encore opaque, lorsque c'était une immense soupe de quarks et de gluons, ce qu'on appelle le quagma. Il avait imaginé qu'il y avait donc des quagmites qui étaient apparus dès le début, et ce sont plusieurs civilisations qui sont nées et qui sont mortes dans un temps très bref. Et à ce moment-là, les quagmites avaient compris que l'univers entrant en expansion, il était en train de se refroidir, et que ces êtres-là ne pourraient pas survivre, sauf si elles arrivaient à se transformer très lentement, et on en retrouvera quelques traces modifiées, édulcorées, dans un avenir très lointain, qui est le cadre du roman.
Là, cette affaire d'univers qui se refroidit où les êtres disparaissent, Baxter a fait ça dans un cadre très primordial, dans un contexte de, comment dire, densité de matière et d'énergie qui n'est absolument pas celle qu'on connaît maintenant, mais dans à une autre époque, à la fin du 19e siècle, où on a commencé à établir solidement les fondements de ce qui s'appelle maintenant la thermodynamique. Il y avait l'idée de la dégradation de l'énergie, l'idée que l'énergie, on peut évidemment la transformer, mais qu'à chaque transformation, celle-ci se dégrade, et que cette dégradation est mesurée par un paramètre, par une quantité qui s'appelle l'entropie. Et il y avait dans l'idée que la fin de l'univers, ce serait la mort thermique de l'univers, la dégradation de toutes les sources d'énergie de l'univers en ultimement chaleur, et chaleur à très basse température. Et donc on retrouve dans, par exemple, le voyage dans le temps de... C'est Wells. Il se transporte dans un futur très lointain où il assiste à la fin de la Terre, à la fin du Soleil et finalement à la fin de l'univers, dans une décroissance thermique lente et donc de plus en plus froide. Et il y a aussi cette idée-là dans Camille Flammarion, dans son ouvrage qui s'appelle La fin du monde, où il décrit la fin de la Terre par refroidissement progressif du Soleil et par atténuation progressive de la chaleur solaire. Donc là, d'une certaine façon, l'énergie comme source de vie, d'une certaine façon, l'énergie comme source de structure et dégradation, disparition des conditions thermodynamiques finalement qui prévalent comme imposant la disparition d'une civilisation. Baxter, de ce point de vue-là, il est assez voisin, quoique dans un autre régime de physique, de Flammarion et de Wells.
Que très belle page, pardon, d'Arthur C. Clarke aussi, dans Profil du futur, qui raconte justement tout l'univers en train de s'éteindre et les dernières formes de vie qui se rassemblent pour trouver des petits foyers de chaleur. Enfin, c'est écrit d'une manière très poétique.
On est un petit peu loin des origines, mais effectivement, donc, Étienne Klein, si j'écoute bien ce que viennent de dire vos deux collègues, on ne peut pas imaginer que notre univers, un jour, donnera naissance à un autre univers derrière ?
Si, on peut l'imaginer, mais ce que je veux juste faire remarquer, c'est que le mot origine est un mot assez ambigu. D'abord, l'origine a comme anagramme religion, ce qui est déjà curieux. Mais il y a aussi que, quand on parle de l'origine, par exemple, des étoiles, ou l'origine des atomes en physique, ou même de l'origine de la masse. Ce matin, j'ai parlé du boson de Higgs. Bon, ça veut dire qu'on essaie de comprendre les processus physiques qui aboutissent à l'apparition de la chose dont on veut décrire l'origine. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'origine des atomes, c'est l'objet d'une discipline qui s'appelle l'astrophysique, c'est la nucléosynthèse qu'on essaie de comprendre comment les atomes qui composent le tableau de Mendeleïev se sont formés au cours de l'histoire de l'univers. On voit que les plus légers se forment dans l'univers primordial. Ensuite, ils se forment, s'ils sont un peu plus lourds, dans les étoiles, par des réactions nucléaires qui font des noyaux de plus en plus massifs. Et puis, pour les plus lourds des atomes, ils se forment dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovae. Bon. Ça veut dire que comprendre l'origine des atomes, en l'occurrence, c'est comprendre l'ensemble des réactions nucléaires qui ont dû se produire pour que l'atome auquel on s'intéresse ait pu apparaître. Et donc, dans ce cas, l'origine des atomes correspond à l'achèvement des processus qu'on sollicite pour comprendre l'origine. Donc l'origine veut dire achèvement, veut dire conclusion, à rebours du sens qu'on lui donne dans la langue commune. L'origine d'une chose, c'est la fin des processus que cette chose a réclamé pour pouvoir exister. Donc les origines dont on parle sont toujours des origines secondaires. Et pour expliquer l'origine d'un être physique, il faut invoquer une autre entité physique. Pour expliquer l'origine de la masse, il faut invoquer le champ de Higgs. Pour expliquer l'origine des noyaux, il faut invoquer l'existence préalable des protons et des neutrons, etc. Maintenant, si vous vous intéressez à l'origine de l'univers, c'est plus une origine relative, c'est plus une origine secondaire, c'est une origine absolue. Parce que si vous décrivez l'origine de l'univers comme étant la fin des processus antérieurs qui ont été nécessaires pour que l'univers apparaisse, c'est que ce que vous décrivez, c'est pas l'origine de l'univers. C'est un moment de son histoire qui a été précédé par une autre histoire. Vous voyez que l'origine de l'univers, c'est pas la même chose que l'origine des éléments chimiques ou l'origine des atomes. C'est quelque chose d'un peu plus particulier. Alors comment est-ce qu'on essaie de décrire cette origine ? Eh bien, en invoquant des lois physiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Roland et puis ensuite avec ce que j'ai dit, que c'est pas l'observation ni même l'expérimentation qui permet d'avoir accès directement à l'origine. Donc ce sont des lois physiques. Alors à partir des lois qu'on connaît, on va militer pour telle ou telle description de l'origine. Mais ça pose la question du statut des lois. C'est-à-dire si vous imaginez que l'univers a une origine à partir des lois que vous connaissez, est-ce que ça signifie qu'il est apparu dans un arsenal législatif, un ensemble de lois qui était déjà fixé, auquel cas l'univers a été précédé par des lois qui étaient déjà formulées, ce qui veut dire qu'il n'a pas été précédé par rien, il y avait déjà quelque chose. Ou bien est-ce que les lois physiques sont apparues au cours de l'histoire de l'univers de façon contingente en fonction de ce qui se passait au sein de l'univers ou en fonction des constituants qui apparaissaient? C'est une question qui paraît très compliquée, mais qu'on peut, résumer d'une façon très simple. Imaginez que l'univers a vraiment eu une origine. C'est-à-dire qu'il a commencé à partir de rien. Je ne sais pas comment, mais à partir de rien. Sont apparus les deux premiers électrons, qui, comme vous le savez, sont des particules électriquement chargées. Ils ont une charge négative. Ils se repoussent par la force électrique. Mais si je dis qu'ils se repoussent, c'est parce que je l'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école que des particules chargées se repoussent si les signes des charges sont les mêmes. Mais comment les électrons, les deux premiers, savaient-ils qu'ils devaient se repousser ? Ils ne sont pas allés à l'école. Donc est-ce que c'est une loi qui est encodée dans leur nature propre ? Est-ce que c'est une loi qui est encodée dans la structure même de l'univers ? Est-ce qu'ils ont obéi à des ordres ? Est-ce qu'ils ont lu la loi de Coulomb sur un tableau noir ? Ou est-ce qu'ils ont négocié avec l'univers ?
Non, il n'y avait que deux électrons.
Deux électrons.
Pas de tableau noir alors.
D'accord. Alors, en plus, il n'y a pas de tableau noir, tu as raison. Et donc, bah, disons, ils négocient avec l'univers, donc je suppose qu'il n'y a pas de tableau noir, mais qu'ils ont la parole. Et ils disent à l'univers, voilà.
Il y a de l'air, alors.
Voilà, on a des charges électriques de même signe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on se repousse en 1 sur R2? Bon, bref. Ça paraît stupide, mais c'est une question à laquelle personne ne sait répondre, parce que c'est une question métaphysique. Et je la cite simplement pour dénoncer une espèce de naïveté qu'on entend parfois de la part des astrophysiciens eux-mêmes. Je pense par exemple au dernier livre de Stephen Hawking qui s'appelle Le Grand Dessin de l'Univers, dans lequel il dit à la dernière page de son ouvrage que l'univers est apparu sans qu'il soit nécessaire que Dieu intervienne, et il dit que les lois de la gravitation ont suffi pour créer l'univers à partir de rien. Donc en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a rien, mais il y a quand même les lois de la gravitation. Et les lois de la gravitation en elles-mêmes, alors qu'il n'y a pas de matière, pas d'espace, pas de temps, pas d'énergie, sont capables d'engendrer un univers physique qui va obéir aux lois de la gravitation. Bon, c'est une idée intéressante, je ne la conteste pas. Simplement, vous voyez bien qu'elle pose des tas de problèmes qui ne sont pas évoqués dans l'ouvrage de Hawking. Par exemple, si vous définissez Dieu, et c'est la définition traditionnelle, comme étant cette entité transcendante qui a créé l'univers, par cohérence avec ce que vous venez de dire, vous devez admettre que Dieu, ce sont les lois de la gravitation. De sorte que quand vous tombez dans les escaliers, sous l'effet de la gravitation, sans le savoir, vous rendez une action de grâce. Et vous voyez qu'il y a une sorte de naïveté incroyable avec laquelle on parle de l'origine. Parce que d'abord, il y a deux sens du mot origine. Soit c'est... D'abord, ça pose la question de savoir du lien qu'il y a entre l'origine d'une chose et la chose elle-même. Est-ce que l'origine d'une chose fait partie de la chose? Alors, dans le cas des atomes, c'est simple. L'origine des atomes, c'est les protons et les neutrons qui s'agrègent au gré des lois de l'interaction nucléaire. Donc, les atomes et les protons et les neutrons font partie des noyaux. Donc, l'origine des noyaux fait partie des noyaux. Mais est-ce que c'est comme ça qu'est né l'univers? Autrement dit, est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers? Il y a deux façons de répondre. Soit vous dites oui, et c'est ce que disent toutes les cosmogonies traditionnelles, et même les cosmogonies grecques. Il y a l'idée qu'au départ, il y avait une matière informe, non organisée, et tout d'un coup, cette matière s'est ordonnée pour donner l'univers. Mais l'origine de l'univers, dans ce cas, est immanente, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'univers. Mais vous avez un autre point de vue, qui est le point de vue qu'ont adopté les trois monothéismes que vous connaissez, qui est l'idée que l'origine de l'univers, elle est transcendante à l'univers, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de l'univers. On invoque Dieu ou une entité supérieure qui n'est pas l'univers, mais qui un jour décide de le créer. Et dans ce cas, l'origine de l'univers ne fait plus partie de l'univers. Ce qui veut dire que l'univers devient contingent, c'est-à-dire il aurait pu ne pas être. Si le Dieu en question avait décidé de ne pas le faire, il n'y aurait pas d'univers. Et donc la question, c'est dans quel registre vous vous placez. Et comme, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de collusion aujourd'hui entre un fait scientifique incomplet, le Big Bang, et un fait de culture, l'univers a été créé, on continue à tourner autour du pot, à créer une zone de concurrence artificielle entre la science et la religion, qui aboutit à des dialogues assez savoureux, comme celui qui a eu lieu en 1992 au Vatican, lorsque Stephen Hawking a rendu visite au pape Jean-Paul II, à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler. Et le dialogue s'est terminé de la façon suivante. Jean-Paul II dit à Hawking, Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui est avant le Big Bang, c'est pour nous. Avec une espèce de séparation des tâches qui n'a en fait aucune nécessité si on s'en rapporte aux connaissances d'aujourd'hui en matière de cosmologie.
Vous voulez rajouter quelque chose? Écoutez, merci beaucoup. Je vois que le temps tourne. Je me tourne vers le public. Y a-t-il des questions à nos invités sur ces sujets de l'origine de l'univers ou disons...
Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Il y a une petite question technique que je me pose. C'est, sans connaître la taille des astres que l'on observe, comment on peut faire pour savoir à quelle distance ils sont? Parce qu'on ne sait pas à quel moment est partie la lumière de l'astre.
mesure de la distance des astres dans l'univers. Alors c'est toute une affaire, parce qu'effectivement, quand on observe le ciel, on a l'impression que tout ce que l'on voit du ciel s'est projeté sur une espèce de grande sphère, oui, qu'on appelle la sphère céleste. C'est une illusion évidemment de nos sens, due à l'extrême éloignement de ces objets qui nous apparaissent tous à la même distance, alors qu'en fait ils peuvent être tout à fait éloignés de des distances très différentes. Eh bien, c'est toute une affaire de l'astrophysique. Ça a commencé par la distance de la Lune, puis la distance du Soleil, des planètes dans le système solaire, la distance des étoiles. Et effectivement, je ne peux pas résumer ça en moins d'une dizaine d'heures, mais il y a toute une structure de construction des échelles de distance dans l'univers qui partent du proche au lointain, le plus lointain s'appuyant sur le un peu plus proche, qui s'appuie sur le un peu plus proche, qui s'appuie sur le tout proche. Et en fait, in fine, ce qui est assez remarquable, c'est que toutes ces distances sont fondées sur une très grande précision, sur la mesure que l'on fait avec une très grande précision de la distance Terre-Soleil. Donc il faut se rendre compte que cette mesure de la distance Terre-Soleil, elle a, dans l'histoire de l'astrophysique, joué un rôle extrêmement fondamental. Elle a été ignorée pendant longtemps. Et en dernier ressort, toutes ces distances dont on parle sont fondées là-dessus, qui maintenant est mesurée avec une bonne précision. Elle est même mesurée avec une précision si grande qu'on a décidé de la figer dans le marbre maintenant. Hein, l'unité astronomique, la distance moyenne Terre-Soleil, maintenant c'est un nombre qui a été défini et figé dans le marbre. Et du coup, toutes les distances dépendent de ça en dernier ressort. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais pour les étoiles les plus proches, on peut utiliser la trigonométrie. Et puis ensuite, on utilise des indicateurs secondaires qui sont fondés sur la physique des astres qu'on observe. Donc, c'est toute une affaire. Enfin, c'est vraiment toute une affaire assez complexe, assez longue. Et des fois, il y a des subtilités et des trucs. Enfin bon, c'est toute une affaire. C'est précisément le point important. La distance en astrophysique, c'est une information extrêmement importante à obtenir. Ça permet d'avoir des idées sur les valeurs intrinsèques de l'objet. Une étoile que je vois très peu brillante dans le ciel, si ça se trouve, c'est une étoile immense en regard du Soleil, mais la distance qui m'en sépare est considérable et je la vois évidemment extrêmement petite. Donc, avoir une idée de sa luminosité intrinsèque, je ne peux l'avoir cette idée que si je connais sa distance, enfin, en première intention. On peut s'en faire une idée d'une autre, d'autre façon, mais en première intention, c'est la distance qui sera importante. Voilà.
D'autres questions ?
Juste une question par rapport à la mort thermique de l'univers. Comment est-ce que c'est intégré dans les nouvelles théories ?
Alors, le futur lointain de l'univers, maintenant on peut en dire des choses un peu différentes, au sens où l'idée de mort thermique sera présente. Dans un univers en expansion, la densité d'énergie va être diluée. Mais elle se traduit aussi par le fait qu'on a une meilleure idée de ce qui se passe pour les étoiles, de ce qui se passe pour les objets dans les galaxies, donc les étoiles, le gaz, la matière noire, c'est pas encore très clair, et pour les galaxies elles-mêmes. Donc les échelles de temps deviennent plus quelques dizaines de millions d'années, comme à l'époque dont je parlais tout à l'heure, au fin du 19e siècle. Elles peuvent se chiffrer. Maintenant, il y a des gens qui ont, je vais pas dire sur une discipline scientifique, mais ils se sont amusés à faire ce qu'on appelle une eschatologie cosmique, ça veut dire parler de la fin de l'univers, de ce qui se passera dans très longtemps. Notre univers a donc à peu près 13,7 milliards d'années, environ 10 milliards d'années pour faire rond, ça fait 10 puissance 10 ans. Et on peut dire que dans 10 puissance 12 ans, toutes les étoiles sont sous forme de naines blanches. 10 puissance 12 à 10 puissance 13 ans, dans 100 fois l'âge qu'a l'univers à maintenant. Et puis après, il y a tout un tas d'étapes, je ne vais pas toutes les décrire maintenant pour vous épuiser, mais on peut dire des choses jusqu'à à peu près 10 puissance 90 ans. C'est des échelles de temps juste hallucinantes, où les derniers trous noirs supermassifs au centre des galaxies s'évaporeront, et dans l'univers, il n'y aura plus que du rayonnement thermique à une température extraordinairement basse, et c'est tout. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, sur des échelles de temps qui sont purement hallucinantes, et qui sont fondées sur une extrapolation à très grande durée de la physique que l'on connaît maintenant, de la physique au sens des lois de physique et de la physique fondamentale, mais de la physique des objets comme les étoiles, les trous noirs, les galaxies, le gaz dans les galaxies, etc. etc. Voilà, donc il y a des textes là-dessus, dans la revue pour la science, il y a un texte qui était plus... Alors je ne sais plus la date exactement, mais si vous fouillez dans la revue pour la science, vous trouverez un texte là-dessus qui raconte, il y a moins de 2 ans, je pense, ce vertigineux panorama temporel de futur de l'univers.
Une autre question ?
J'ai une question qui concernerait plutôt l'origine de l'univers, donc effectivement la vraie origine. Quel serait le rôle de l'antimatière dans cette origine, si est-ce qu'il y a des théories là-dessus ?
Si on prend en sérieux, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, l'origine, le mot origine au sérieux, ça veut dire qu'au début, il n'y a rien. Et puis, il y a des choses qui apparaissent. Alors, simplement, la question d'antimatière, elle intervient dans le fait que, d'après nos équations, la matière et l'antimatière ont exactement les mêmes comportements, subissent les mêmes lois physiques. Il n'y a aucune différence entre elles. Et on pense également que, au tout début, les proportions de matière et d'antimatière étaient les mêmes. Or, dans l'univers actuel, il n'y a plus d'antimatière. L'antimatière a disparu. Et donc la question, c'est où est passée l'antimatière? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites, notamment trois qui avaient été proposées par Sakharov, le prix Nobel de la paix, en 1967, et qui invoquent ce qu'on appelle une brisure de symétrie, une violation de la symétrie CP entre la matière et l'antimatière, qui expliquerait comment, en fait, la matière qui existe, par exemple les protons qui existent aujourd'hui, ont survécu, où sont les rares survivants d'une immense annihilation qui a fait disparaître tous les antiprotons qui étaient là, presque tous les protons qui étaient là, un antiproton faisant disparaître un proton, et puis les quelques protons qui ont surnagé sont ceux qui constituent la matière d'aujourd'hui. Simplement, pour vérifier cette hypothèse, il faut faire des expériences assez complexes, dont l'une est réalisée en ce moment au LHC, grâce à des collisions de protons qu'on réalise à très haute énergie. Et vous voyez que c'est pas l'origine qu'on décrit là, c'est plutôt un moment dans l'histoire où l'antimatière qui était présente a fini par disparaître.
Avez-vous d'autres questions ?
Alors en fait, je vous sollicite plutôt pour m'éclairer sur un lien entre science et science-fiction. C'est-à-dire que dans plusieurs œuvres de science-fiction, on voit l'idée d'une origine du temps lui-même, ce qui supposerait quelque chose d'assez un peu particulier à concevoir, d'un avant le début du temps, qui donc serait obsolète comme idée, et ensuite l'écoulement du temps comme on le vit actuellement. Est-ce que ça, vous pourriez en dire quelque chose ?
Parler de l'origine du temps, c'est un peu comme parler de ce qu'il y a au nord du pôle Nord.
Moi, je propose qu'on réponde tous les trois. Et moi, je commence juste par dire une chose. Parlons non plus du temps, mais parlons, par exemple, de l'origine du langage. Et ça me servira à éclairer la question du temps. On se pose la question de l'origine du langage. Et c'est une question qui a été extrêmement discutée au 19e siècle, au point que, en 1873... la Société de linguistique de France a déclaré, elle a même inscrit dans ses statuts, qu'elle n'examinerait plus aucun manuscrit prétendant dire ce qu'a été l'origine des langues. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une confusion entre deux choses. Si vous posez la question de l'origine du langage, vous avez deux façons d'envisager la chose. Soit vous cherchez la première langue, la toute première langue, c'est-à-dire le proto-langage d'où ont émané les 6000 langues aujourd'hui parlées dans le monde. Vous cherchez la première langue, en supposant qu'il y en a une. Deuxième façon de comprendre les choses, c'est d'identifier quelles sont les conditions sociales, culturelles, intellectuelles, psychologiques, économiques, qui font que dans un groupe humain apparaît la nécessité de communiquer. Et donc ce que vous allez chercher là, c'est non pas la première langue, mais les conditions de l'apparition d'une langue. Quand vous cherchez la première langue, c'est un événement que vous pouvez dater dans l'histoire. Il y a un moment où est apparue la première langue. Quand vous cherchez les conditions qui font qu'une langue doit apparaître, vous apercevez que c'est beaucoup plus difficile à déterminer. C'est plutôt un processus qu'un événement singulier. Alors quand vous posez la question de l'origine du temps, il y a deux façons de la comprendre. C'est comme pour les langues. Soit vous posez la question de l'instant zéro. Comment est-ce que le premier instant a pu apparaître ? Ok ? Et comment ensuite cette étincelle initiale a pu engendrer un feu continu qui est le cours du temps? Comment ce premier instant a pu engendrer la suite des instants qui vont lui succéder? Ou bien vous posez la question de savoir quelles sont les conditions physiques qui permettent l'apparition du temps tel que nous le comprenons. Et là, selon que vous considérez que le temps est une notion vraiment primitive, ou selon que vous considérez que le temps est une émanation qui vient surnager au-dessus d'un monde qui ne le contient pas, vous aurez des réponses différentes. Voilà, j'ai dit des choses compliquées, mais c'est parce que la question est compliquée. Et je passe la parole à Roland Lehoucq, qui va vous décrire tout ça avec beaucoup plus de précision.
Non, mais l'apparition du temps, évidemment, si on regarde juste la physique, la cosmologie, ce problème-là, il ne faut pas le débobiner dans le sens toujours vers le temps croissant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le débobine vers le temps décroissant. On remonte dans le temps, on regarde des objets de plus en plus lointains pour essayer de reconstruire l'histoire de l'univers telle qu'on pense qu'elle s'est passée. Et donc cette remontée, d'une certaine façon, elle est, je le disais tout à l'heure, d'autant plus imparfaite qu'on va remonter dans des instants lointains. Et à un moment donné, il y aura une sorte d'horizon, à la fois un horizon cosmologique, un horizon physique qui vous permettra de vous nourrir plus d'informations sur les instants qui précèdent. Un horizon technique, parce que finalement, peut-être qu'en ayant de meilleurs instruments, on pourrait reculer cet instant où on n'a plus, ou ce moment, ou cette position dans l'espace où on n'a plus d'informations. Et puis, c'est un horizon intellectuel. Il faut imaginer ce qui a pu se passer avant, essayer de construire des instruments, essayer de construire des théories pour décrire ce qui se passe avant. Et donc, en réalité, la question d'un instant initial ou d'un début du temps, à mon avis, elle se bloque. Elle est bloquée dans la façon même dont on construit l'histoire de l'univers, dont on reconstruit l'histoire de l'univers en remontant son cours. Et vient un moment donné, si on est lucide, il vaut mieux dire qu'on est en train de passer dans la spéculation, dans la poésie, dans ce qu'on veut, mais plus tout à fait dans la science en tout cas, plus dans la science au sens où on peut observer les choses, plus dans la science où les théories physiques que l'on connaît s'appliquent, plus dans la science telle qu'on la fait habituellement. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a une sorte de moment où... Je ne sais pas si le langage s'éteint, mais la physique, en tout cas, ne peut plus dire des choses aussi sûres, aussi correctes, aussi affirmées et validées qu'elle ne peut le dire dans les instants qui précèdent. Donc l'origine du temps, c'est un endroit qui est au-delà de ça. Donc c'est une façon de botter en touche, mais pas tout à fait, parce qu'il faut quand même avoir bien compris sur la façon dont on construit, dont on reconstruit l'histoire de l'univers. Beaucoup des questions que l'on pose en cosmologie résultent d'un malentendu sur la façon dont cette histoire a été reconstruite. Et on la représente dans le sens à temps croissant, avec un début et une fin, alors que là, le début c'est maintenant, et on remonte dans le passé, le début de cette histoire que nous reconstruisons, et on remonte dans le passé. D'accord. Et donc ça, c'est important d'avoir compris ça, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, le langage de la physique est vain. Vain parce que inapproprié, malade, pas adapté, incomplet, les observations n'existent plus, et notre imagination est trop faible. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'on passe la main aux auteurs de science-fiction qui, eux, franchissent allègrement le mur du temps.
Oui, non. Très vite, pour conclure, le fait même de dire qu'est-ce qu'il y avait avant le temps, on voit bien que le mot « avant » n'a plus aucune pertinence. Mais la première question était les rapports entre la science et la science-fiction. Eh bien, justement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce terme est un oxymore. Il y a d'un côté une science qui suppose une certaine précision, et puis il y a une fiction qui se situe dans l'imaginaire le plus pur. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Mais en fait, à partir du moment où il y a cette impossibilité de marier une science avec de l'imaginaire, eh bien, on se rend compte qu'il existe d'une part un imaginaire de la science, que fait par exemple n'importe quel chercheur lorsqu'il va élaborer des théories. Il ne va pas l'élaborer d'une manière, qui va suivre de près une méthode scientifique. C'est de la rêverie. Et d'un autre côté, il y a aussi des rêveurs qui vont se nourrir de la science. On est là à la jonction de quelque chose qui n'a peut-être pas vraiment de nom, qui n'en existe pas moins et autour duquel on peut jouer, rêver, imaginer. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'était. Nous avons passé une petite heure à parler de l'univers et de son cours. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Je remercie infiniment nos trois orateurs pour leur présence.